Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Il est 10h10 à Brasilia. Notre rendez-vous aujourd'hui dominé par la situation du Covid sur le continent. Les records tombent les uns après les autres au Brésil. Cuba pousse les murs pour accueillir les malades pendant que les États-Unis vaccinent à tour de bras. Mais se divisent, faut-il oui ou non instaurer un passeport vaccinal ? Benoît Ferrand, le Covid, il en sera question aussi avec vous dans une quinzaine de minutes. Le journal de l'Outre-mer, on évoquera les limites de la coopération sanitaire entre les départements français d'Amérique.
Oui, nous verrons par exemple que la Guadeloupe pourrait compter un peu sur la Guyane, mais très peu, voire même pas du tout, sur la Martinique.
À tout à l'heure, Benoît. Et puis l'on entendra aussi la nouvelle directrice d'Amnesty International aussi aujourd'hui. Quelle place pour la question des droits de l'homme dans les États-Unis de Joe Biden. Bienvenue à tous.
RFI, o mundo mais perto de você.
Plus de 336 000 morts du Covid au compteur, déjà, et un record dont le Brésil ne peut guère se vanter. Près de 4 200 décès enregistrés rien qu'hier. La faute aux variants qui se propagent à vitesse grand V et aussi à la gestion politique de cette crise. Le neuroscientifique Miguel Nicolelis, ancien président du comité anti-Covid de la région Nord-Est, le déplore et met en garde.
Avec plus ou moins 100 000 nouveaux cas par jour, le Brésil permet au virus de réaliser un nombre très important de mutations qui peuvent faire apparaître de nombreux variants, comme on l'a vu en Amazonie, auprès de Sao Paulo la semaine dernière, ou d'autres variants encore que la Fondation Oswaldo Cruz a identifiés à Rio. Le virus génère de très nombreuses mutations. De nouveaux variants peuvent apparaître et ils peuvent se propager au-delà des frontières du Brésil et atteindre le reste du monde en quelques jours. Le Brésil pourrait ainsi se transformer en laboratoire de variants à ciel ouvert qui peuvent compromettre la lutte contre la pandémie dans le monde entier. C'est pourquoi le Brésil est considéré comme un paria au sein de la communauté internationale.
Des variants qui se propagent d'abord chez les voisins. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Comme par exemple le Venezuela, situation critique dans le pays, c'est à la une de la presse que vous avez lu.
Oui, depuis début mars, le Venezuela fait face à une deuxième vague épidémique avec notamment le variant brésilien du Covid-19. Les médecins constatent de plus en plus de cas de réinfection. Selon les chiffres officiels communiqués hier par Delcy Rodriguez, qui est la vice-présidente du pays qui coordonne la commission pour la prévention et le contrôle du coronavirus. Le Venezuela a enregistré en tout plus de 165 000 cas. 1526 nouvelles infections ces dernières 24 heures, rapporte le journal Efecto Cocuyo.
Et un autre indicateur qui démontre le caractère plus virulent de cette deuxième vague, Stéphanie, c'est la pression sur le système hospitalier.
Selon Tal Cual, les hôpitaux publics et les cliniques privées sont au bord de l'implosion. Sur les réseaux sociaux, affluent les demandes de familles à la recherche d'oxygène ou d'une aide financière pour le traitement de leurs proches malades. D'après les calculs de la directrice de l'Académie nationale des sciences, interrogée par Le Quotidien, les chiffres réels de malades et de morts liés au Covid-19 sont au moins 25% plus élevés que ceux annoncés officiellement par le gouvernement vénézuélien.
Une pression qui n'épargne pas non plus le système de santé de Cuba. L'île enregistre plus d'un millier de contaminations quotidiennes. Les autorités doivent d'ailleurs annoncer ce jeudi de nouvelles mesures de restriction. En attendant, les hôpitaux font avec les moyens du bord. Et quand ça ne suffit pas, eh bien d'autres lieux se retrouvent à accueillir des malades. Exemple à La Havane, où l'Institut supérieur d'art, privé de ses étudiants, s'est transformé en hôpital de campagne. Reportage Domitille Piron.
Habituellement à l'ISA, l'Institut supérieur d'art de La Havane, les étudiants répètent une pièce de théâtre sur le parvis de l'université, un jeune révise un morceau de trompette ou une chorégraphie de danse s'improvise sur la pelouse du campus. Mais aujourd'hui, c'est un balai d'ambulances et de patients atteints de la Covid-19 qui défilent à l'Institut. Ce campus est emblématique de la formation artistique d'excellence à Cuba, mais la crise du coronavirus a vidé de ses étudiants les bâtiments aux coupoles de briques connus mondialement. Enya Torres Castellano, vice-rectrice de l'Institut supérieur d'art.
Nous avons réellement dû nous réinventer. Le fait d'étudier à distance ne doit pas faire baisser la rigueur et la qualité de l'enseignement. Et nous avons fait en sorte que la forme change, mais que cela affecte le moins possible les études.
Et au-delà de la poursuite des activités universitaires à distance pour les 1530 étudiants, Lisa a également la charge de 80 patients atteints du coronavirus qui occupent actuellement la résidence étudiante.
C'est inédit dans l'histoire de l'université d'avoir converti la résidence étudiante en hôpital. Au mois d'août dernier, l'université a d'abord été utilisée comme centre d'isolement. Nous avons accueilli dans un premier temps des cas suspects de Covid et maintenant nous accueillons des personnes contaminées mais asymptomatiques. La cuisine de la cantine de l'université, par exemple, s'est mise à préparer des plats pour les malades de la Covid. En fait, c'est toute la logistique de l'université qui a été démultipliée parce que nous maintenons l'activité universitaire même s'il n'y a pas d'étudiants et que le personnel est réduit. Et en plus, il faut travailler pour le centre d'isolement. Pour nous, c'est tout à fait nouveau, mais c'est aussi une preuve de tout ce qui peut se faire depuis une université.
Mobiliser également, les étudiants qui ont été renvoyés chez eux sont affectés au centre culturel de leur quartier où ils effectuent un stage appelé d'impact social. Ils étudient également à distance et certains ont aussi choisi de s'engager dans la lutte contre la Covid-19. Danrel González Correa semblait ne pas vouloir quitter le campus de l'ISA. Alors cet étudiant en quatrième année de danse et représentant de la Fédération des étudiants universitaires s'est engagé dans cet hôpital de campagne. Durant un temps, il a troqué ses chaussons de danseur pour la blouse de personnel médical.
Souvent, on apporte une aide psychologique. Nous sommes aussi chargés d'apporter des repas et de nettoyer les locaux où résident les personnes contaminées durant leur isolement. On doit aussi remplir la base de données informatiques des patients, savoir qui est positif ou négatif, qui a déjà été contaminé, combien il y a d'enfants ou de personnes âgées, identifier les personnes vulnérables parce qu'il faut apporter une attention particulière à ces patients.
La zone est inaccessible pour des raisons sanitaires et le jeune Danrel est encore en quarantaine après avoir passé 14 jours à l'intérieur de l'hôpital du campus de l'Institut supérieur d'art.
En tant qu'artiste, nous ne sommes pas habitués à ce genre de travail, mais le seul art que nous pouvons développer en ce moment, c'est celui d'aider et de soutenir ceux qui en ont besoin.
Un exemple de résilience très cubaine en temps de coronavirus. Domiti Piron, La Havane, RFI.
Et après les conséquences sanitaires, les conséquences politiques aussi du Covid, Stéphanie, au Chili, la hausse des cas a eu raison des élections qui étaient prévues ce week-end.
Oui, après plusieurs jours d'intenses débats au Parlement, le président Sébastien Piñera a promulgué hier une loi qui reporte les élections au 15 et 16 mai, annonce en une ce matin la Tercera. C'est donc à cette nouvelle date, Michael, que les maires et les gouverneurs seront renouvelés. Mais il s'agit aussi et surtout de l'élection des membres de l'Assemblée constituante chargée de rédiger la future constitution du Chili.
Le Pérou lui a fait le choix en tout cas de maintenir ses législatives et sa présidentielle prévues également dimanche. Mais désormais, ce sont 4 candidats à cette présidentielle qui sont positifs au coronavirus. La clé à tout ça, bien sûr, c'est la vaccination. Grâce à elle, les États-Unis commencent à entrevoir la lumière. 108 millions d'Américains ont reçu au moins une dose déjà. Et Joe Biden a confirmé hier que ça allait encore s'accélérer.
Au plus tard, le 19 avril, dans n'importe quel endroit de ce pays, toute personne âgée de plus de 18 ans pourra être vaccinée. Plus de règles confuses, plus de restrictions confuses.
Mais derrière cette campagne, une polémique, Stéphanie, agite le débat, celle autour de l'instauration ou pas de passeports vaccinaux numériques.
Oui, l'administration Biden a affirmé hier, elle, qu'elle n'imposera pas de passeport sanitaire aux Américains pour montrer qu'ils ont été vaccinés. Le secteur privé, lui, avance pourtant déjà sur l'idée, constate le New York Times, qui cite quelques exemples. La ligne aérienne Cathay Pacific est convaincue que la preuve numérique de la vaccination contre le coronavirus permettra le retour de voyages internationaux sûrs. C'est pourquoi l'entreprise a demandé à ses pilotes et à ses équipages d'essayer une nouvelle application mobile qui montrait leur statut vaccinal sur un vol récent entre Hong Kong et Los Angeles. Et Walmart, le plus grand employeur privé américain, propose aux patients vaccinés dans ces magasins, des applications afin qu'ils puissent facilement accéder à leur statut vaccinal en cas de besoin.
Et puis, il y a aussi les universités, Stéphanie, qui ont également annoncé qu'elles demanderaient à leurs étudiants une preuve de vaccination avant de les laisser revenir dans les amphithéâtres.
Tout à fait, et c'est donc une tendance qui se dessine clairement aux États-Unis pour permettre un retour à la vie normale. Elle est pourtant contrecarrée par les républicains, fait remarquer encore le New York Times. Les conservateurs mettent en avant la contradiction entre le fait que la vaccination se fasse sur la base du volontariat et des avantages à venir probables pour les personnes dotées d'un passeport vaccinal. L'éditorialiste du Boston Globe s'insurge ce matin contre ce qu'il qualifie de tentative de politiser l'idée des passeports vaccinaux. Une tentative, selon le journal, aussi malhonnête que celle d'utiliser les masques comme arme dans leur guerre idéologique.
La vaccination qui, en tout cas, permet au gouverneur démocrate de Californie de faire une promesse. Eric DeSalve, il vient d'annoncer la levée des restrictions pour le 15 juin.
Un retour à la vie normale à quelques jours de l'été, sous le soleil californien. La promesse du gouverneur Gavin Newsom a de quoi faire rêver après plus d'un an de restrictions anti-Covid-19.
Le taux de mortalité est en baisse, les contaminations se stabilisent et si nous gardons ce rythme, eh bien nous sommes confiants. Nous pourrons rouvrir notre économie dès le 15 juin et reprendre comme avant. Mais cela à condition de continuer à porter le masque et à rester vigilant. Mais nous voyons la lumière au bout du tunnel.
Et si la Californie commence à entrevoir le bout du tunnel, c'est grâce à la vaccination massive et rapide de sa population. Le Golden State vient de passer la barre des 20 millions de doses de vaccins distribuées et la cadence continue d'augmenter. Fin avril, ce sera 30 millions et d'ici deux mois, les autorités pensent avoir distribué leur première injection à toute la population adulte. Un record aux États-Unis pour cet État qui a été le premier à confiner son économie et qui a aussi été le plus décimé par le coronavirus, avec près de 60 000 morts. Éric Dossal, San Francisco, RFI.
L'épidémie qui a aggravé à travers le monde, on le sait, la situation des droits humains. Les États-Unis ne sont pas épargnés. D'après Amnesty International, l'ONG publie aujourd'hui son rapport annuel. Elle y pointe la dégradation des droits humains durant les années du mandat Trump. Alors l'arrivée de Joe Biden augure-t-elle des jours meilleurs? Véronique Guémard a posé la question à la nouvelle directrice d'Amnesty, la française Agnès Callamard.
L'arrivée de Joe Biden au pouvoir est quand même symboliquement extrêmement important, dans la mesure où, en tout cas durant sa campagne et au cours des premiers mois de sa présidence, les politiques mises en place, le discours qui est énoncé est l'opposé de ce qu'on a pu voir et entendre au cours des quatre dernières années. Donc symboliquement, c'est extrêmement important. Pratiquement, ça l'est aussi avec les mesures immédiates qu'il a prises sur l'immigration, sur les revenus à apporter à tous ceux qui ont été victimisés par le Covid. Donc, au niveau en tout cas national, au niveau des pratiques nationales, au niveau des narratives nationales, des discours, grande différence. Est-ce que cela va être maintenu dans le temps? Je ne sais pas. Est-ce que cela s'applique internationalement? Je ne sais pas non plus. Au niveau de l'Iran, il y a certainement un intérêt à rouvrir le dossier sur le nucléaire. C'est assez limité, donc moi, par rapport au dossier que je connais, qui est par exemple le dossier de l'Arabie Saoudite, la présidence Joe Biden a fait quelque chose de très important, qui était d'ouvrir le secret défense américain et de mettre pour tout le public international ses conclusions sur les responsabilités de l'Arabie Saoudite par rapport au meurtre de Jamal Khashoggi. C'est une étape extrêmement importante que je ne tiens pas à minimiser, particulièrement au vu du fait que la France, elle, n'est pas du tout dans cette optique par rapport au secret défense, en tout cas pas dans les années immédiates.
Concernant l'assassinat de Ghislaine Maupin et Claude Verlon, par exemple.
Voilà. Mais par contre, au-delà de cette transparence, va-t-on voir de vraies mesures prises contre ce responsable du crime de Jamal Khashoggi et aussi les ceux qui sont responsables des crimes qui sont commis au Yémen? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. On n'a pas sanctionné Mohamed Ben Salman. La vente d'armes offensives continue en Arabie Saoudite. Il n'y a pas du tout, on n'a pas vraiment l'impression que l'Arabie Saoudite change de direction ou de politique. Donc ça, c'est un exemple. Donc c'est encore trop tôt de faire le bilan des années Biden. On espère qu'il va s'orienter dans la direction de sa campagne et qu'il va aussi essayer d'apporter une réponse aux répressions systémiques qui ont été dénoncées pendant l'année 2020 par Black Lives Matter. Là, c'est c'est un énorme chantier pour ce président et qui peut avoir des répercussions à l'échelle internationale.
Les défis de Joe Biden en matière de droits humains, Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, elle répondait au micro RFI de Véronique Guémard. La question des droits humains qui nous emmène aussi aujourd'hui au Honduras. Stéphanie, vous êtes toujours avec nous. Le procès d'un homme d'affaires a débuté hier dans le pays. Il est accusé d'être le cerveau présumé du meurtre de Berta Cáceres.
Oui, cet emblématique écologiste a été abattu par balle à son domicile le 3 mars 2016. Dans les années qui ont suivi, les tueurs à gages ont été arrêtés et condamnés à 50 ans de prison. Puis les individus qui avaient engagé ces tueurs ont été arrêtés et condamnés à 30 ans de prison. Désormais, c'est donc au tour de David Castillo de se trouver sur le banc des accusés. Il dirige des Arroyos Energéticos, rappelle le journal La Prensa, un groupe électrique qui voulait construire un barrage sur le fleuve Gualcare, projet auquel s'était vigoureusement opposé Berta Cáceres et son ONG pour la défense des droits des autochtones. À l'époque, se souvient encore La Prensa, le chantier était complètement paralysé par les manifestations. Le procureur en est convaincu. David Castillo a ordonné la mort de Berta Cáceres afin de pouvoir poursuivre les travaux. Le quotidien La Jornada rapporte ce matin que les avocats de l'homme d'affaires ont tenté de retarder le début du procès pour vice de forme. La demande a été rejetée par le tribunal.
Stéphanie Schuller pour la presse du continent avec nous. Aujourd'hui, on referme cette parenthèse droits humains pour en revenir au Covid.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est avec vous, Benoît Ferrand. La coopération sanitaire entre les trois départements français d'Amérique en matière de Covid, eh bien, ne devrait pas tarder à atteindre ses limites.
Oui, bonjour Michael. Si la situation due à l'épidémie de Covid-19 venait par exemple à se dégrader en Guadeloupe, l'île des Antilles pourrait compter un peu sur l'aide de la Guyane, mais probablement pas sur celle de la Martinique. Les hôpitaux de l'île sœur étant déjà eux-mêmes proches de la saturation. Julien Babel.
En cas d'aggravation ici, la Guyane pourrait nous apporter son aide. La direction du CHU de Guadeloupe a prévenu son homologue de Cayenne pour la mettre en tension. Y évacuer des malades est donc une possibilité si besoin, mais aussi en fonction de la situation à l'instant T. Difficile à prévoir avec la forte hausse sur place des cas de variants brésiliens. En Martinique, la situation est très sensible. Le 4 avril, on notait une brutale accélération des hospitalisations. 94 patients au total ce même jour, dont 19 en réanimation. Difficile d'y évacuer des patients Covid. Malgré tout, lundi, un malade de Guadeloupe a été transféré en Martinique. Pour l'instant, seul des trois départements a disposé de l'ECMO. Cette technique d'assistance à l'oxygénation extracorporelle utilisée en dernier recours dans les formes les plus sévères du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Il faut donc éviter l'asphyxie car en bout de chaîne plane le spectre du choix entre les patients. D'autant que si la situation Covid s'aggravait sérieusement de façon généralisée, la coopération interrégionale serait finalement un vœu pieux.
Direction la Martinique maintenant avec un reportage qui a un petit air de déjà-vu et hélas déjà entendu. Bref, un reportage sur la tristesse résignée des restaurateurs locaux contraints depuis jeudi dernier de fermer les portes de leurs établissements et réduits, pour ceux qui le peuvent, à quelques livraisons et autres plats à emporter. Christine Cupit.
Les plages du sud de la Martinique, habituellement prises d'assaut pendant la période de Pâques, ont été désertées par les vacanciers. À Sainte-Luce, au Marin ou à Sainte-Anne, de nombreux restaurants ont baissé le rideau depuis l'instauration du nouveau couvre-feu. Quelques-uns ont choisi de résister en proposant exclusivement des plats à emporter. Mais l'absence de touristes a fait chuter l'activité.
Même quand on fait des plats à emporter, il n'y a pas grand monde sur la plage. Voilà, c'est compliqué quoi. Pas du tout de touristes. Même les locaux, voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes sur la plage, les plages sont désertes.
Nous n'avons pas de clientèle touristique, à part ceux qui sont restés bloqués sur place. Et puis les gens, au départ, qui étaient des touristes, mais qui sont devenus des locaux au fur et à mesure, qui nous permettent de tenir.
Depuis que le couvre-feu est à 19h, donc on est obligé de fermer la terrasse.
Les restaurateurs espèrent remettre le couvert dès la fin du couvre-feu. Mais la plupart a déjà trinqué depuis le début de la crise sanitaire. Ces nouvelles restrictions pourraient être le coup de grâce pour certains.
Bon après-midi, Michael. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première qui refermaient ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques réalisé aujourd'hui par Hélène Avril et à retrouver, bien sûr, en podcast et sur RFI Pure Radio. Rendez-vous aussi pour commenter l'actualité américaine sur Twitter avec l'arrobase RFI Amérique.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
Radio Foot International.